Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut, c'est Colette du podcast Colette se confesse. Bienvenue sur ma chaîne. Tu pourras y découvrir deux formats, un gratuit et un payant. Les confessions sont des partages d'expériences pour une meilleure compréhension de soi, des autres et ainsi apprendre à définir et à communiquer sur ses désirs. Les histoires immersives, entre 5 et 20 minutes, disons olé olé, sont là pour enrichir ton imaginaire érotique et te détendre, redorer sa sexualité pour retrouver son équilibre intérieur. Ces épisodes sont des créations sonores d'une grande qualité. C'est pas moi qui le dis, c'est mon petit doigt qui me rapporte tout. Cela demande beaucoup de temps d'écriture, de réalisation, d'interprétation et de post-production. Pour accéder aux nombreux contenus exclusifs et devenir membre de la communauté Club Coco, tu peux devenir donateur et donatrice. Ce podcast est aussi disponible sur YouTube. Tu pourras y voir les mains de Colette et de ses invités. Un petit follow pour me soutenir partout sur les réseaux sociaux. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci. Bonne écoute. Salut, c'est Colette et je suis avec...
Brian. Salut Colette.
Bonjour Brian, merci d'être là. Brian, on est rentré en contact parce que en fait tu m'as parlé un peu de ton métier et ça m'a beaucoup intriguée. J'ai trouvé ça assez passionnant et puis surtout... J'avais jamais, bizarrement, tu vois, j'ai beau parler pas mal de sexualité, enfin je crois que j'en parle pas mal, j'ai beau parler de sexualité et en faire un podcast dessus, j'avais jamais vraiment assimilé la sexualité au milieu hospitalier. Et c'est là où on s'est rencontrés et toi tu m'as dit, si moi je travaille dans un hôpital, dans une clinique, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Et c'est justement tout mon sujet.
C'est tout ton sujet et je pense que c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde, et surtout sa sexualité en fait à l'hôpital, comment on la vit, comment on la ressent. Et effectivement, mon travail, c'est un peu sur ça, c'est essayer de faire en sorte qu'on puisse se prendre dans la globalité, la sexualité chez un patient, et même chez l'individu, en bonne santé.
Est-ce que tu peux me dire un peu plus, comment ça se passe en fait, quels sont les genres de patients qui vont venir te voir? Déjà, est-ce que quand on est à l'hôpital, quel médecin va proscrire aux patients de voir un sexologue? Quelle est la démarche à suivre? Ou est-ce que c'est une demande des patients? Ou est-ce que ça doit être une démarche de leur part? Enfin, comment ça s'articule en fait?
Alors ça va être un peu bilatéral, ça va être souvent soit le médecin qui va prescrire une consultation pour un sexologue, ou c'est soit le patient qui va faire sa propre démarche.
Et c'est quel médecin?
Alors ça va être souvent des cardiologues, des gynécologues souvent, des sages-femmes aussi peuvent être sexologues ou prescrire. Et parfois ça peut être les urologues aussi, les andrologues.
Qu'est-ce que c'est un andrologue?
Un andrologue, c'est un peu le médecin qui gère la sexualité masculine.
Attends, mais il y a beaucoup de médecins qui gèrent la sexualité masculine, parce que j'ai jamais entendu ça.
Il y en a peu. C'est très peu réputé, mais il y en a dans quelques établissements. Surtout les cliniques ou les établissements spécialisés un peu en urologie souvent on a ce type de médecin-là. Mais c'est pas les métiers qui sont mis en avant, parce que il y a d'autres métiers qui priment par rapport à ça, quoi.
Et il va traiter quoi, l'andrologue ?
Vraiment l'aspect sexuel du patient, c'est-à-dire son genre, son orientation, les mécanismes physiologiques, ce genre de choses-là.
Ok, et les andrologues et les sexologues, du coup, est-ce qu'ils peuvent être amenés à faire les mêmes choses ou est-ce qu'ils se complètent ?
On est plutôt dans la complémentarité. En fait, il faut se dire que la sexualité, en fait, y a différentes strates. Et que du coup, on se partage un petit peu via différentes spécialités. Donc, c'est comme pour les sexologues, il y a certains sexologues qui sont vraiment spécialisés dans le genre. Moi, par exemple, je ne suis pas spécialisé dans le genre, c'est une question qui m'intéresse, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Alors que d'autres sexologues le sont vraiment et peuvent entreprendre des thérapies avec certains types de troubles. Moi, par exemple, ce n'est pas quelque chose auquel je me suis spécialisé. Moi, c'est vraiment la manière dont on perçoit sa sexualité. Déjà en tant qu'individu. Pas en tant qu'individu sexué, c'est-à-dire homme-femme. Déjà, en tant qu'individu, comment on perçoit sa sexualité ? Comment on la ressent ?
Tu peux expliquer c'est quoi les différences entre individu et individu sexué ? Pour toutes les personnes à qui on pourrait pas voir la différence ou...
Ben, je dénature le sexe. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir dire que nous sommes une femme ou un homme, je pense qu'avant tout, nous sommes un être. On ressent des choses, on perçoit, que ce soit le sens, le goût, l'odorat. Avant tout ça, on a ces petites perceptions. Et ces petites perceptions nous permettent de confirmer un petit peu notre orientation et notre genre.
Tu peux développer ?
Faut se dire que nous sommes constitués de micro-organismes. Et du coup, en fait, on est influencé par énormément de choses. Et notre environnement influence notre perception du monde. La perception du monde, c'est quelque chose qui va nous définir en tant qu'être. Et à partir de là, lorsqu'on a un environnement qui est plus ou moins favorable à un développement normal... Je mets vraiment des guillemets anormales. On peut se retrouver dans un sexe...
Des grandes guillemets anormales.
Des grandes guillemets. Je mets de grandes guillemets parce que c'est une question qui est complexe, du coup. Savoir si vraiment, par exemple, on est avec le bon sexe ou le bon genre, par exemple, ça, c'est vraiment une problématique actuelle. Et je pense qu'on devrait prendre cette problématique-là pas comme un problème, mais plutôt comme une réflexion. Mmh. Je pense qu'on devrait plutôt réfléchir à la manière dont on se pose ce type de questions-là et arrêter de diaboliser les choses et de plutôt les voir sous un autre prisme, avec beaucoup plus de neutralité et beaucoup plus de bienveillance.
Tu parlais tout à l'heure des différents sens qui font que ça définit notre genre, de comment nous on se sent. Ouais. Tu veux dire que par exemple, certains odorats, certaines odeurs ou certains touchés vont t'aider à te permettre de... Pardon, j'arrive plus à parler. Vont t'aider à te définir si tu te sens plus femme ou plus homme ?
Bien sûr. Bien sûr. En fait, la manière dont notre corps est constitué, on a des petits récepteurs. Et ces récepteurs-là, en fait, nous permettent de capter un peu comment on interagit avec le monde. Le fait d'interagir avec le monde, forcément, ça va nous donner une définition. Et c'est pour ça que là, je vais te parler de réalité et de réel. Du coup, on est tout le temps dans le réel, mais on capte des petits morceaux, des petits moments de la réalité. Et en fait, on est tout le temps entre cette espèce de confrontation entre le réel et la réalité et... C'est là où parfois, c'est là, ça crée des troubles chez nous. Parfois, on n'est pas en accord avec la réalité qui est présentée à nous. Et notre réel, parfois, il est un peu biaisé par notre perception du monde.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris, pardon.
C'est très complexe.
Mais je veux bien que tu me réexpliques.
C'est hyper complexe, en fait. On va parler de phénomènes. En fait, nos sens nous permettent en fait, de capter l'extérieur. Et l'extérieur va impacter notre intérieur à nous. Donc forcément, où est-ce qu'on va vivre, où est-ce qu'on va grandir, les personnes qu'on va fréquenter, l'éducation qu'on va recevoir, tout ça va influencer. Donc forcément, ça va orienter un petit peu notre psychisme, notre physique et notre physiologie. Donc ça va avoir des répercussions sur notre sexualité.
Mmh, ok. Et en quoi nos sens, du coup, en fait, là où j'ai du mal à saisir, je fais un peu exprès d'aller creuser le truc parce que j'aime bien comprendre.
C'est important.
Par exemple, est-ce que ça voudrait dire que la même main d'une personne qui touche une personne ou une autre, ils vont pas le recevoir de la même manière ?
Exactement.
Et c'est ça qui va définir du coup leur orientation ?
Pas forcément l'orientation. L'orientation, oui, et même l'intention. Parce que du coup, par rapport à l'intention qu'on va mettre dans le geste, dans le toucher, forcément, il va pas y avoir les mêmes informations données dans le geste. En fait, on a des informations en permanence. Et ces informations-là, par rapport à notre vécu, on ne va pas les recevoir de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, le rejet, l'abandon, parfois, on va être en couple et on va percevoir son compagnon lorsque après une dispute, ben, par exemple, il va partir, on va ressentir de l'abandon, du rejet. Ben, non, en fait, c'est question de perception. C'est parce que toi, avec ton vécu, ce que t'as ressenti auparavant, ben, ça te fait écho à ton histoire et du coup, tu as l'impression de revivre un peu cette espèce de trauma en permanence. Tout ça, c'est lié au sens.
Une question que je me pose, c'est que du coup, est-ce qu'à partir de ces perceptions peuvent se créer, démarrer dans notre imaginaire certains fantasmes ?
Tout part de là.
Ah !
Tout part de là.
Parlons-en.
Tout part de là. Et étant donné que les fantasmes, souvent, ils arrivent à émerger un petit peu dans nos rêves, même dans nos cauchemars parfois, c'est des choses qu'on enfouit au plus profond de nous parfois. On a cette espèce de frustration en permanence où on se dit, bah, j'ai rêvé de quelque chose, j'y pense toute la journée, mais c'est pas réalisable, c'est pas normé. Je peux pas l'exprimer, je peux pas le verbaliser. Et parfois, c'est comme ça qu'on est là, on est frustré dans nos relations, même dans nos communications, parce qu'on n'arrive pas à verbaliser ce qu'on a pu rêver, on a pu fantasmer. Tout part de là un petit peu, et tout ça part des perceptions.
Qu'est-ce qu'on devrait faire en fait avec cette information avec ces informations qui sont les fantasmes, est-ce qu'on devrait prendre plus conscience que ce sont des perceptions, essayer de comprendre d'où ça vient, ou est-ce qu'il faudrait au contraire essayer de se projeter dans qu'est-ce que ça pourrait devenir?
Je pense qu'on doit se mettre dans les deux questionnements. Je pense qu'on doit y réfléchir et on doit trouver le moyen potentiellement de pouvoir le réaliser aussi. Je pense que les deux, ce sont une réflexion après l'autre. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut prendre conscience de ce qu'on a pu ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a provoqué en nous ? Est-ce que ça nous bouleverse ? Qu'est-ce que ça provoque comme sensation à l'intérieur de nous ? Et puis, voir comment on peut le réaliser. À quoi ça nous fait écho ? Pourquoi ? Comment ? Les personnes qui ont interagi, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps de poser et vraiment de dérouler.
Comment on fait ce travail ? Enfin, parce que bon, bah, moi, j'ai ma petite manière de faire et pour le coup, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pour moi, mais je sais que aussi, bah, assez souvent, on voit des messages où ça peut arriver que l'on soit perdu, que ce soit, j'allais dire, dans sa sexualité, mais en fait, non, parce que finalement, les messages que je reçois, finalement, c'est pas que sur la sexualité, c'est de manière générale, c'est des moments parfois dans sa vie où on est un peu perdu, où on a besoin de creuser un peu plus en nous, d'apprendre à nous connaître. Mm-hmm. Quel pourrait être le procédé pour mieux comprendre ces fantasmes, mieux les apprivoiser, merci.
Mieux apprivoiser ces fantasmes.
C'est ça.
Je pense que, étant donné que c'est du contenu qui est un peu anarchique, parce que souvent il survient dans notre inconscient, lorsqu'on ferme les yeux, ou lorsqu'on est dans le métro, ou lorsqu'on marche, ben, on pense un peu à tout ça parfois. Et je pense que la meilleure des manières de
pouvoir... Ça t'arrive quand, toi ?
Moi, je pense que j'y réfléchis en permanence, et du coup, pour pouvoir... Il pense à être vraiment reposé chez ce petit carnet, du coup, qui m'aide pas mal. Donc tout ce qui est dans ma tête, j'essaye de le sortir un petit peu et de l'écrire, parce que parfois, bah, on peut pas le verbaliser à tout le monde, on peut pas le verbaliser à l'instant T, donc du coup, si on a de quoi noter. Après, le téléphone, c'est très bien aussi. Mais...
Donc tu écris des fantasmes ?
Alors, je pense pas que ce soit vraiment des fantasmes, je pense que ce sont des débuts de perception, et peut-être que derrière tout ça, ouais, il y a peut-être un fantasme. Je pense que... À travers mon métier, avec la volonté que j'ai, je pense que c'est plutôt... Ouais, ça peut relever du fantasme, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Je pense que j'ai cette volonté de faire en sorte que tout le monde puisse être en accord avec sa sexualité, qu'on puisse être prendre dans sa globalité, pas partiellement, par exemple. Donc, ce petit carnet m'aide pas mal, ouais.
Ah, donc tu veux dire que parfois, peut-être qu'inconsciemment, tu penses à des choses et tu vas essayer de les mettre en mots, mais en les mettant en mots, t'es déjà un peu plus dans l'action.
Exactement.
T'es déjà moins dans ton imaginaire, dans...
J'essaie d'être... plus ou moins plutôt pragmatique, ouais, j'essaye.
Ça marche. On en était où ? Parce que du coup, on parlait de, oui, comment transformer ces fantasmes. Donc oui, donc toi, t'es du parti pris de dire que le fantasme est fait pour être réalisé.
Ouais, sinon ça crée de la frustration. Et la frustration, c'est pas bon à vivre.
Et est-ce que tous les professionnels de santé partagent cet avis-là ?
Pas forcément, non. Après, ouais. Je pense que c'est un avis personnel. Je pense que dans la société actuelle, avec les enjeux sociétaux qui sont présents, je pense que aller au bout de ses idées, je pense que c'est plutôt important. Alors certes, il y a des idées qui sont pas réalisables, ça, faut en être conscient. Et il y a l'aspect éthique, il y a l'aspect moral de tout ça. Mais je pense qu'il faut se faire confiance et il faut faire confiance à ce qu'on perçoit. Et actuellement, je pense que ce qu'on produit et ce qu'on essaye de mettre en place, je pense que ça fait partie un peu de notre inconscient, un peu de nos fantasmes. Comment on aimerait fantasmer un peu notre société ? Je pense qu'on aimerait tous vivre dans une société où tout le monde est accepté, tout le monde peut vivre sa sexualité comme il le sent, comme il le ressent. Et actuellement, c'est pas possible, on le sait tous. Et je pense qu'à travers ces différentes démarches, je pense qu'on essaie de faire bouger un peu les choses et C'est en faisant ce type de podcast, ce type de rencontre qui nous permet en fait de pouvoir partager en fait un peu nos idées.
Alors qu'en est-il si je prends un cas, si je prends un cas concret ? Disons, il existe par exemple des femmes qui se sont fait une projection de la sexualité, que ce soit par des films ou par des conquêtes passées qui n'étaient pas forcément fortuites. Je pense à ça, par exemple, que ce soit de la violence domestique ou du viol ou voilà, des choses qui peuvent être très douloureuses comme ça. Il y a des femmes qui transforment parfois certaines blessures, certains chocs émotionnels en fantasmes.
Oui.
Donc pour ces personnes-là, là je parle de femmes, mais en fait c'est aussi pour les hommes.
Enfin, exactement, ça s'applique un peu.
Oui, là je prends vraiment, c'est un exemple, un cas concret, mais en fait on pourrait en trouver 3000 dans plein d'autres circonstances, sous plein d'autres aspects, bien sûr. Donc par exemple, bah, disons que là si je prends donc cette femme-ci, tu vois, qui s'appelle Y, voilà, juste pour lui donner un petit nom.
Madame Y, très bien.
Voilà, Madame Y, comment est-ce qu'elle, elle pourrait travailler avec ce fantasme-là ? Et surtout, comment comprendre quel désir réel se cache derrière ce fantasme-là ?
Alors derrière le désir et le fantasme de Madame Y, un désir qui est lié certainement à un trauma, si j'ai bien compris. Comment pouvoir travailler avec, quand tu parles de travailler, c'est-à-dire dans quel sens travailler avec, sur un plan de résilience, ou plutôt sur quelque chose où...
J'imagine, ce serait plutôt déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle a ces fantasmes-là. Et quel serait le cheminement à prendre pour elle pour comprendre, ok, bah en fait, voici ce que je désire, genre, parce que forcément, non, j'ai pas envie de me faire violer, non, c'est pas ça l'envie, mais qu'est-ce que le fantasme traduit ? En fait, ma grande question derrière ça, c'est de comprendre comment traduire ces fantasmes en ces désirs, et comment comprendre que, ok, bah, peut-être que je fantasme de ça, mais en fait, ce dont je désire vraiment à l'intérieur de ce fantasme.
Ok, j'ai un exemple plutôt concret, du coup, et on va parler, je pense que. De la tendance un peu qu'il y a depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est tout ce qui est sugar daddy. Je pense que ça, on peut faire le rapprochement.
Je veux bien que tu expliques pour tous ceux qui ne connaissent pas.
Alors, le sugar daddy, c'est une personne d'un certain âge qui fréquente une personne d'un âge beaucoup plus inférieur au sien. Donc, souvent, on peut dire que ça peut être des étudiants ou des étudiantes qui fréquentent des personnes de plus de 40 ans, par exemple, et qui, à travers ça, leurs fréquentations sont parfois monnayées ou parfois pas du tout. Parfois, il y a, à la fin de cette rencontre, il y a parfois des rapports sexuels, parfois pas. Enfin, ça dépend un peu de la manière dont les conditions ont été posées.
Et pourquoi
cet exemple-là ? Ouais. Bah, on peut faire le rapprochement entre la manière dont on... Alors, je ne vais pas généraliser parce que ce serait projeter quelque chose de subjectif sur un cas général alors que ça ne va pas être le cas.
Mais c'est pour ça qu'en l'occurrence, si vraiment tu as un cas concret en tête,
j'ai pas de cas concret, mais je pense que c'est...
On pourrait partir sur cette histoire-là précisément, et comme ça permettrait, de, sans généraliser, de parler d'un exemple.
Bah, j'ai une situation, lorsque j'étais à la fac en première année, on était en cours magistral, et on était 150. Et on avait un petit groupe d'amis où on se partageait un peu les cours. Et dans ce groupe d'amis, il y avait deux filles qui étaient pas extrêmement présentes, mais qui arrivaient à avoir des résultats plutôt satisfaisants. Et il y avait cette problématique de rémunération d'argent qui était présent dans leur vie. Et lors d'une discussion, elles ont abordé le sujet. Elles ont dit qu'elles avaient recours à ce type de fréquentation, c'est-à-dire qu'elles sortaient le soir avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elles, et elles entretenaient des relations pendant plusieurs mois, et elles finançaient, enfin, les personnes qu'elles voyaient financer les études de cette personne, des étudiantes.
Donc elles se revendiquaient comme sugar babies.
Voilà.
Ok. Juste, je me permets de repréciser, mais si tu l'as déjà dit, que ça n'a rien à voir avec de la prostitution.
Ça n'a strictement rien à voir avec de la prostitution.
Je veux bien, je veux bien que tu expliques, parce que en fait, là, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, elles vont forcément faire le lien et se dire « Ah, bah donc c'était des putes ». Et non, c'est pas la même chose.
Alors, c'est vrai que c'est particulier. Je pense que les mots sont relativement importants entre travailleuse du sexe, prostituée et sugar daddy, enfin, ça, ces appellations-là. On va dire la fonction systémique est complètement différente. La travailleuse du sexe peut faire ça par profession et par volonté pure. La prostituée a forcément un réseau derrière, une organisation qui est mafieuse parfois, sous contrainte. Et la sugar baby, du coup, a une autre vocation, une autre volonté. C'est le manque économique
fait en sorte que ça l'amène à une situation où elle fréquente des hommes pour pouvoir fréquenter, pour pouvoir financer ses études. Donc la volonté, enfin le but de chacune de ces, je sais pas si on peut appeler ça des professions, mais on va appeler ça plutôt des statuts. On appelle ça des statuts. Chacun des statuts est complètement différent, elle n'a pas le même impact dans la société.
Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé par ça, c'est que Sugar Daddy et Sugar Baby, ça peut être monétisé,
exactement,
mais ça peut ne pas être. Voilà. Donc on peut être Sugar Baby et ne pas recevoir d'argent.
Exactement.
Par contre, on va être chouchouté, on va être invité au restaurant, on va se faire inviter de acheter de la lingerie, enfin tout ça. Et puis surtout, la grande différence, corrige-moi si je me trompe, entre travail du sexe, prostituée et Sugar Baby, c'est que la Sugar Baby, c'est avant tout une rencontre, une relation humaine entre les deux personnes,
exactement,
qui s'apprécient et qui ont un lien fort. Et après, bah, ils aiment, en fait, c'est un kink, donc c'est un fétiche comme un autre.
Exactement.
Ils aiment avoir ce genre de rapport, donc ils vont vivre ce genre de rapport. Mais il n'y a pas de responsabilité ni de l'un ni de l'autre.
Exactement.
C'est que si demain ils veulent arrêter, ils veulent plus se voir ou tout simplement ils veulent ne plus être dans ce rapport-là et dans un autre rapport, ce sera libre à eux et puis
ils mettent fin en fait à la relation tout simplement. C'est une relation qu'ils mettent.
Exactement. C'est une relation comme une autre. Exactement. Et ils peuvent la Sugar Baby ne doit rien en échange, qu'elle se fait offrir des choses. C'est plus le Sugar Daddy qui a un réel plaisir à gâter l'autre personne. Enfin, ils ont vraiment il y a la notion de plaisir qui est vraiment là, à offrir et à recevoir.
Ouais, c'est du don contre don. Après, on peut prendre ce phénomène-là sous un aspect sociologique, psychologique. Et après, forcément, bah, on peut retrouver les traumas. Par exemple, chez l'adulte, par exemple. Enfin, chez l'adulte âgé, on peut se dire, bah, voilà, quel type de trauma, enfin, quel trauma il a pas pu résoudre.
Et après, pourquoi forcément des traumas aussi
Parce que dans nos sociétés actuelle et comment la psyché humaine est normée, le fait de pouvoir vivre une relation avec quelqu'un qui est trois fois ou deux fois plus jeune que soi, ce n'est pas normé, ce n'est pas normal. Parce que c'est la perception qu'on a des normes
oui,
de nos sociétés.
Oui, mais est-ce que c'est parce que c'est pas normal que c'est forcément traumatique et puis en plus, on a bien dit tout à l'heure qu'on mettait normal avec des grandes guillemets.
Exactement.
Donc... Enfin voilà, c'est vrai que le mot trauma m'a fait un peu tiquer, parce que je me suis dit bah ça peut être aussi
une envie aussi.
On a tous nos blessures, bien certes, sûr. Et donc on agit tous différemment dans notre vie, mais ça peut être aussi parce qu'en fait trauma pour moi ça veut un peu dire que du coup c'est des personnes qui sont pas saines et c'est pour ça que j'ai un peu tiqué.
D'accord.
Parce que
okay, donc,
parce que comme je vois les choses, ouais voilà, tu peux être sain d'esprit et avoir envie d'être Sugar Daddy ou Sugar
Bien
Baby.
Sûr.
C'est pas forcément parce que t'es quelqu'un de traumatisé, qui a eu une enfance terrible.
Non,
voilà,
après, je pense que c'est le rapport qu'on a au mot trauma et surtout comment on perçoit un peu la psychologie. Malheureusement, c'est vraiment pointé du doigt et il faut prendre du recul un petit peu sur les mots qui sont employés et la signification profonde de ça. Je pense qu'on a tous un petit peu nos blessures internes et du coup, bah, à travers nos blessures, on a essayé d'exister. Et à travers ces existences-là, bah, parfois ça peut. Parfois il y a pas de répercussions, et parfois il y en a, tout simplement.
Et on a un peu digressé. mais c'est hyper intéressant, je suis trop contente qu'on parle de ça, parce qu'en plus, j'avais jamais eu l'occasion encore de parler de Sugar Baby, Sugar Daddy sur mon podcast, donc c'est cool. Alors pourquoi est-ce que tu ramènes ce sujet? Est-ce que du coup, on en était à parler de. Enfin, ma grande question, c'était comment transformer le fantasme en désir et pour le faire exister et pour le faire arriver dans sa vie, parce qu'on est parti du constat qu'un fantasme est fait pour être réalisé.
Exactement.
Donc pourquoi est-ce que tu as ramené l'exemple du Sugar Baby, Sugar Daddy? Est-ce que tu penses à quelque chose, une histoire en particulier, ou est-ce que tu voulais m'emmener?
Alors quand j'ai voulu t'emmener un peu sur le Sugar Daddy et le Sugar Baby, c'était plus par rapport au fait que
Je me permets juste, pardon, ouais. Parce qu'on n'arrête pas de dire Sugar Daddy, mais il existe aussi des Sugar Mami.
Sugar Mami aussi.
Et des Sugar Baby.
Qui sont moins présentes, qui sont moins exposées, parce que je pense que c'est plutôt une exposition des réseaux sociaux et de la société. On met les femmes moins en avant, un peu comme d'habitude, je vais dire. Souvent, les femmes ne sont pas mises en avant. Mmh. Et là, malheureusement, les Sugar Daddy, du coup, sont un peu plus sur la scène et du coup, prennent beaucoup
oui.
plus
un parce que c'est des positions où, du coup, c'est des gens, en général, qui gagnent un peu bien leur vie, etc.
Parfois, ils ont ces profils-là.
Voilà. Donc, du coup, la Sugar Mami est moins mise en avant. Mais elle existe.
Elle est présente aussi.
Donc, on devrait dire Sugar Daddy et Sugar Mami, parce que sinon, on les oublie. Encore une fois, on ne les met plus en avant.
dans ce podcast-là, on essaie de les mettre en avant aussi.
Donc voilà, excuse-moi, je voulais pas te couper. Je te laisse reprendre.
J'ai voulu t'emmener un peu sur ça parce que on a toujours cette volonté, lorsqu'on est petit, de se dire, ben, quand je serai grand, je ferai ça. Et je pense que le fantasme, c'est un peu pareil. Il est à l'intérieur de nous et il grandit tout doucement. Et à un moment, pour les personnes qui arrivent à réaliser leur fantasme, eh ben, il arrive à taille adulte et il arrive à sortir de son esprit, il arrive à sortir vers l'extérieur, à le faire partager avec son partenaire. C'est pour ça que j'ai voulu t'emmener un petit peu comme ça. Je pense que le fantasme, c'est toujours quelque chose qu'en réalité, on travaille en permanence, qui revient sous...
Il y a beaucoup de patients, du coup, qui sont sugar daddy, sugar mami ou sugar baby?
Pas forcément, non. C'est une petite partie des patients. Non, je pense que c'est le fantasme en général chez les hommes et chez les femmes. Je pense que c'est quelque chose qui a la taille d'un embryon. Et puis, plus on est confronté aux expériences, et plus ce fantasme-là se renforce, il va puiser un petit peu dans les expériences qu'on a vécues, dans les petites perceptions, et du coup, ça lui donne du contenu. Et lorsque le contenu est assez rempli, assez conséquent, ben, on se sent capable de pouvoir le réaliser vers l'extérieur. Et c'est là que parfois on réalise ses fantasmes. Mmh. Donc, ce qui arrive souvent, lorsqu'on a ces espèces de réflexions-là, ça arrive souvent entre 30 et 45 ans, souvent on a ces réflexions, on se dit, bah, tiens, il y a des choses que je dois réaliser, j'y vais maintenant. Parfois, il y a des fantasmes qui sont réalisés beaucoup plus tôt, mais c'est vraiment... la réflexion du fantasme, elle met du temps à mûrir. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu du rapport que les adultes plutôt âgés ont avec les femmes. Enfin voilà, je voulais partir un petit peu comme ça.
D'accord, ok. Ah, donc si je comprends bien, en fait, c'est que tu dis qu'actuellement, il y a pas mal de personnes qui font le cheminement de maturer leur fantasme à un âge mature, donc plus de 45 ans. Et du coup, bah, donc, c'est là où ça arrive qu'ils soient sugar daddy, sugar mommy, parce que Ils n'ont pas réussi à le faire avant, en fait.
Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas l'expérience acquise, il n'y avait pas la réflexion, il n'y avait pas cette confiance en soi aussi qu'on acquiert à cet âge-là. On n'a pas la confiance en nous à 20 ans de la même manière quand on en a 40. Donc forcément...
On pourrait faire, du coup, pour faire maturer ses fantasmes avant ses 45 ans ?
Je pense que...
Ça serait cool.
Je pense que ça serait cool, mais... Ce qui est particulier, c'est que pour parler de ces fantasmes-là, il faut pouvoir les communiquer. Et lorsqu'on n'a pas de médiateur pour pouvoir communiquer ces fantasmes, bah c'est compliqué de pouvoir y réfléchir. À seul, c'est dur, parce que ça reste subjectif, et on pense que, avec toutes les normes qui nous sont imposées, on pense que ce qu'on pense n'est pas normal. Et le fait de croire que ce n'est pas normal, du coup, on refoule. Alors que si on avait un médiateur qui nous permettait en fait de pouvoir verbaliser tout ça et de pouvoir faire en sorte que ça soit réalisable.
Mais est-ce que son premier médiateur, ce serait pas censé être son partenaire ?
Théoriquement, ce serait le cas. Mais parfois, c'est pas le bon médiateur. Je pense que, moi, avec ma position professionnelle, je pense que parfois, il y a certaines réflexions qu'on ne peut pas faire mûrir et partager directement à son partenaire. Je pense que c'est déjà une espèce d'introspection personnelle, déjà. Savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut. Et je pense qu'avoir une personne neutre, qu'on ne peut pas influencer, qui ne sera pas influencée par nos propos, je pense que c'est plutôt de cette manière-là qu'on devrait ou qu'on pourrait démarcher.
Est-ce que tu aurais des astuces à partager pour, premièrement, déjà faire ce travail d'introspection, seul ?
Seul, oui. Alors, je pense que écrire, c'est pas mal. Mais je pense que c'est d'abord essayer de s'affirmer. Personnellement, verbaliser quelque chose auquel on pense, le verbaliser vers l'extérieur, je pense que c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'on n'a pas les termes adéquats, les mots suffisants. Et c'est parfois ça qui nous manque. Et parfois, c'est pour ces raisons-là que nous ne sommes pas totalement compris dans ce qu'on verbalise. Et du coup, je pense que l'écriture, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Et écrire, par exemple, dès qu'on a un fantasme, on l'écrit tout de suite ?
On pourrait l'écrire.
Même si c'est maladroit, c'est peut-être pas les bons mots, mais au moins l'écrire.
L'écrire. Et lorsque ce fantasme se manifeste différemment dans notre esprit, le réécrire sous une forme totalement différente et continuer en fait à faire mûrir. En fait, c'est du contenu en fait qu'on sort de notre tête.
Ah, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire l'écrire et ensuite le réécrire.
Et le réécrire.
J'aime bien ça. Ça, j'ai jamais fait.
Ce serait peut-être une technique à mettre en place maintenant.
Ah, mais ça m'intrigue beaucoup parce que en effet, je pense que ça n'a rien à voir quand tu réécris
quelque chose qu'on a déjà.
Ce serait un très bon exercice, ouais. Ok.
Je pense que ça pourrait être l'une des premières astuces que je pourrais donner aux gens pour travailler un peu sur son introspection. Et puis après, forcément, je pense que trouver un professionnel de santé, ça peut être n'importe qui, ça peut être son médecin traitant, ça peut être une infirmière, ça peut être n'importe qui. Trouver un médiateur, ou même, enfin un psychologue, psychiatre, enfin n'importe qui, avec qui on trouve que l'écoute active, parce qu'il y a différents types d'écoute, que l'écoute active est vraiment présente dans sa prise en charge. Qu'on puisse ressentir que cette personne nous écoute et qu'il n'y a pas ce jugement derrière là. Et à partir de là, dès qu'on a cette espèce de confiance...
Tu peux définir écoute active ?
Alors l'écoute active, c'est une technique thérapeutique qui a été mise en place et qui a été découverte un peu chez Freud. C'est Freud qui a mis ça en place. Et puis après, il y a l'école de Palo Alto qui a développé toute forme de, enfin, différentes techniques en fait, de communication à travers ça. Et l'écoute active, en fait, c'est vraiment une écoute où on écoute totalement, où il y a la position corporelle qui compte. Et il y a des reformulations qui sont mises en place pour qu'on puisse vraiment saisir la totalité du contenu du patient qui nous donne. Et donc du coup, ce patient-là, ça permet en fait de pouvoir vraiment se mettre dans un processus où son contenu est spontané et pas vraiment réfléchi, mais totalement conscient. Et
finalement, je fais du Palo Alto sans le savoir.
Peut-être. Je pense que c'est peut-être dû à tes différentes expériences qui a fait en sorte que tu as développé tes propres techniques.
Voilà. T'as Freud n'a qu'à bien se tenir, Colette arrive.
Freud, on pourrait dire qu'il est même peut-être dépassé maintenant.
Freud, t'es complètement has-been.
Voilà.
Vaniketa. Non, pardon, j'arrête. Bon, voilà, je fais des petites blagounettes. Ok, trop chouette. Et du coup, disons qu'on a appris à se connaître, on a fait ce travail d'introspection, on sait un peu plus ce qu'on veut. En fait, non, j'ai envie de dire, parce que peut-être là, je vais un peu trop vite, en fait, parce qu'il y a à écrire peut-être les quelques trucs qui passent par nos têtes, mais qu'en est-il pour les personnes qui n'arrivent pas à fantasmer ?
Les personnes qui n'arrivent pas à fantasmer.
Ou qui pensent qu'elles n'ont pas d'imagination, qu'elles n'ont pas de créativité.
Alors, elles ont forcément quelque chose. Elles ont forcément du contenu, mais je pense que c'est la manière
mais
dont...
Elles ne se pensent pas capables. Elles ne pensent pas à avoir ça.
Ou je vais même peut-être dire qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'elles perçoivent. Et ouais. Ça, c'est un problème qu'on va tous rencontrer. Je pense qu'on a du mal à prendre conscience de ce qu'on perçoit. C'est-à-dire quand notre corps nous parle, on ne l'écoute pas vraiment. Et du coup... Il y a des signes, il y a des phénomènes qui se passent et on n'y prête pas attention. Nos yeux voient des choses, mais on n'y prête pas attention. Les odeurs qu'on perçoit nous révèlent des choses et on n'y prête pas attention. Et je pense qu'à partir de là, quand on ne prête pas attention à ces sensations, à partir de là, on biaise déjà nos perceptions, notre manière de percevoir les choses, de réfléchir et de conscientiser les choses. Donc je pense qu'il faut peut-être retourner un peu à l'essentiel, un peu et se remettre un peu en accord avec soi-même. C'est réapprendre à se regarder, à se toucher, ce genre de choses. Je pense que c'est ce que tu véhicules un peu.
Merci. Ça demande un peu d'effort personnel, du coup.
Oui.
Mais ça vaut le coup.
Ça vaut totalement le coup. Et je pense qu'avec cette démarche-là, les gens qui peuvent écouter ce type de podcast-là, je pense qu'elles peuvent se mettre dans une position où elles se disent c'est vrai que pour pouvoir satisfaire l'autre, il faut que je puisse me satisfaire déjà de moi-même. Il faut que je puisse déjà... comprendre ce que je ressens et ce que je perçois. Et à partir de là, lorsqu'on a conscience de tout ça, on peut vraiment exprimer sa sexualité dans la totalité, répondre à ses besoins et aux attentes de l'autre.
Et puis du coup, on n'est plus en train d'agir en fonction de l'autre et en jugement
Exactement.
De l'autre, mais on agit en fonction de soi.
Exactement, il y a un vrai partage cette fois-ci.
Trop chouette. Et donc, disons que on a réussi à faire ce travail, on sait un peu mieux ce qu'on veut et tout. Si on est célibataire, bon, c'est un peu plus simple quelque part parce que naturellement, j'ai l'impression, je pense qu'on va faire, même inconsciemment, les rencontres, des nouvelles rencontres, soit dans des endroits ou soit avec des personnes qu'on n'aurait pas eues auparavant parce qu'on n'était pas dans le même état d'esprit. Mais que se passe-t-il si on est en couple et que l'on a été en couple avec cette personne qui a connu le moi d'avant? Et comment faire en sorte que l'autre nous accompagne et qu'on accompagne l'autre dans cette évolution personnelle et intrapersonnelle, quelque part
Ouais, je vois où est-ce que tu veux m'emmener. Alors, je pense que l'élément principal qui constitue la relation entre deux individus, je pense que c'est la communication. Je pense que c'est le seul outil authentique qui nous permet de nous prendre comme on est. Si on communique correctement, et dans le correctement, je mets aussi des guillemets parce que...
Et comment communiquer ?
Et c'est ça en fait. Je pense que les moyens qu'on utilise pour communiquer ne sont plus adéquats. Je pense qu'on est discommuniquant en réalité, en permanence. On a du mal à communiquer avec les autres. On a du mal à comprendre l'autre. Et c'est ce qui nous met parfois dans des situations où parfois c'est conflictuel.
C'est dû à quoi ?
Je pense que c'est plutôt notre manière de pouvoir interagir. En fait, on a plus envie de communiquer que d'écouter les autres. Écouter l'autre, ça n'a pas la même importance et le même impact. Si on prend le temps d'écouter l'autre, on va se rendre compte que la personne demande énormément. Elle en attend de beaucoup de choses. Elle a des craintes. Et parfois, quand nous, on a envie de communiquer et pas d'écouter, eh ben, on transmet uniquement ce que nous, on perçoit. Et c'est comme ça que ça crée, en fait. On n'est pas sous le même canal, on va dire. C'est un canal.
Donc, communiquer, ça part finalement de écouter davantage.
Exactement.
Plutôt que d'essayer d'exprimer davantage.
Exactement. Je pense que pour pouvoir cerner son partenaire, il faut l'écouter. Si on a vraiment cette volonté de pouvoir aller en profondeur, de le connaître dans son intimité profonde, je pense qu'il faut l'écouter avant tout et pas essayer de communiquer.
Mmh. Est-ce que pour faire comprendre du coup à son partenaire, on peut lui demander de nous écouter ? Est-ce que ça, c'est une demande qui pourrait se faire ? Ou est-ce que ce serait maladroit ? Est-ce que ça pourrait créer des tensions ? Ouais, mais du coup, comment est-ce que tu demandes à ton ou ta partenaire de t'écouter davantage ? Comment est-ce que ça se formule ?
Comment favoriser l'écoute, du coup ? Ça ouais. serait ça. Je pense que ça découle un peu de l'intérêt qu'on porte. Je pense que l'intérêt qu'on porte à une personne, on va le ressentir. Quand quelqu'un souhaite vraiment nous comprendre et vraiment apprendre à nous connaître, je pense qu'elle prête l'oreille et on le ressent. C'est quelque chose qui est perceptible. Quand une personne les écoute réellement, quand une personne ne les écoute pas, on le ressent directement et du coup, on cherche pas à favoriser davantage l'échange.
Mmh.
Alors que quand quelqu'un nous écoute réellement, on le sent, il prête l'oreille.
Ouais, la question, c'est comment mettre le couple ou même ça pourrait être pareil au boulot, j'ai envie de dire, comment mettre l'autre personne dans un mood qui favorise l'écoute.
Alors, je pense que ça va dépendre de soi et de l'autre. De savoir si, en l'observant, s'il est capable d'entendre ce que tu verbalises tout de suite maintenant. En fait, il faut savoir que on n'est pas tout le temps disponible. Je pense qu'on passe peut-être 70% du temps avec soi-même et le reste avec l'autre.
Mmh.
Et le fait de pouvoir percevoir la disponibilité de l'autre, ça veut dire qu'on prête attention à ses états. Un individu, il change, c'est un peu comme la rivière, on n'est jamais devant la même rivière, même si on est posté au même endroit. L'être humain est un peu pareil.
C'est très beau ça, percevoir la disponibilité de l'autre, voilà. ça me plaît beaucoup. Ouais. Merci de ce partage.
Je t'en prie.
Comment t'en es venu à la sexologie, à en faire ton métier ?
À en faire mon métier. Alors, ça va être... là, on va aborder un peu l'aspect vraiment personnel, mon orientation. Ce qui m'a vraiment influencé, c'est mes origines. Et surtout, le milieu dans lequel j'ai grandi, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et ma famille a été extrêmement présente. Énormément ma grand-mère.
Tu veux bien m'en parler un peu plus ?
Ouais, bien sûr. Ma grand-mère m'a beaucoup aidé, en fait, à réfléchir sur la manière dont le monde que j'avais investi m'entoure. Comment je le percevais, comment j'interagissais avec lui. Et je me souviens qu'à 10 ans, je lui avais dit « Mamie, quand je serai grand, je serai sexologue. » Et j'ai terminé par être sexologue parce qu'elle m'a aidé en fait à comprendre les échanges entre individus, à les comprendre, à ne pas les juger, mais plutôt à essayer de les décortiquer et d'essayer de comprendre de quoi ce phénomène provient. C'est-à-dire comment mes parents se sont rencontrés, par exemple. Du coup, j'ai appris à décortiquer leur orientation.
Tu peux expliquer un peu plus pour qu'on comprenne, si tu veux bien donner un peu plus de détails.
Alors,
quelles sont tes origines ?
Alors, mes origines, je suis d'origine, en fait. Ma mère est portugaise guinéenne et mon père est guyanais vietnamien. Et du coup, j'ai grandi dans une culture, enfin, dans quelque chose, dans un milieu extrêmement enrichi, culturellement parlant. Parce que ma grand-mère est issue du Portugal et du coup, elle est arrivée en France avec sa culture portugaise. Mon grand-père, ici de Guinée, est arrivé avec sa culture guinéenne. Et déjà, ce premier mariage de culture et d'orientation, de religion, enfin, même d'a priori, a fait en sorte que ça a conditionné un petit peu la vie de mes parents. Et mon père, lui, est d'origine vietnamienne. Et il a emménagé en Guyane, en fait, dans les années 50. Et ça aussi, ça a énormément rythmé ma manière de percevoir l'histoire, du coup. L'histoire en général, l'histoire du monde, l'histoire de ma famille et l'histoire de la relation dont je suis né. Et c'est comme ça que ça a orienté un peu mon orientation vers la sexologie un petit peu, d'essayer de comprendre un petit peu l'origine de tout ça.
C'était tabou la sexualité à la maison ou au contraire c'était très ouvert, c'était...
Pas du tout, c'était plutôt ouvert, j'arrivais plutôt à en discuter facilement avec ma grand-mère.
Voire plutôt débridé ou ouvert juste en arrivant à en parler mais...
On arrive en... Je vais dire plutôt débridé. Je vais pas dire que c'était quelque chose avec lequel on avait un accès facile. C'est plutôt... On nous a éduqués avec cet aspect où on cherche à comprendre. Pas à agir, mais à comprendre. Pourquoi on fait ça? Comment on le fait? De quelle manière, quelles intentions on va mettre à,
donc
dans tout ça.
Même vis-à-vis de la sexualité. Donc, même s'il y avait des histoires d'adultère dont on pouvait entendre parler ou quoi.
C'est, je pense que l'adultère fait partie un peu de toutes les familles. C'est commun et du coup, j'ai appris à le désacraliser, à pas le diaboliser. Parce que ça fait partie un peu de chaque individu, chaque couple.
C'est ça, c'était relié aux différentes cultures
C'est lié aux différentes cultures, tout ça.
Ok, mais j'aimerais bien que, je sais pas, dis-moi si je suis trop intrusive, mais j'aimerais bien que tu me racontes l'histoire plutôt que je pose des questions.
Ok.
Parce que du coup, moi, j'ai l'impression de chercher des infos, mais finalement, je sais pas trop de quoi t'as envie de me parler.
Moi, je peux te parler de mes origines, un petit peu de... on peut parler de mon grand-père, qui lui, est de confession musulmane, et en Guinée, on pratique un islam sunnite, et religieusement parlant, alors après éthiquement et moralement parlant, c'est autre chose. Mais dans la religion, on accepte en fait de pouvoir avoir plusieurs femmes. Et avoir plusieurs femmes pour une Européenne, c'est très compliqué. Donc il y a eu un espèce de conflit culturel, étant donné que lorsqu'on arrive en France, on a des normes de société, on a une éducation. Et forcément, ma grand-mère et mon grand-père n'ont pas eu la même éducation, n'ont pas eu la même culture. Et le fait d'avoir perçu cette histoire-là, ça m'a amené en fait à réfléchir sur la question en fait du rapport à l'autre, de la culture, de l'origine, de savoir si ça a un impact sur nos relations et sur notre sexualité. Et jusqu'à preuve du contraire maintenant, je pense que ma réflexion est plutôt juste. Je pense que oui, effectivement, ça a un impact, mais c'est de la manière dont on perçoit cet impact, comment on analyse cet impact-là dans la vie d'un individu, comment on l'analyse, nous permet de pouvoir avoir un regard beaucoup plus neutre de tout ça et de ne pas être dans une situation où on juge. Étant donné que ce n'est pas une culture à laquelle on est confronté en permanence, forcément, on va être confronté à nos limites et du coup à nos normes. Et en fait, c'est ça en permanence. J'essaie de bouger un peu les normes, de mon côté, à mon point de vue, parce que c'est mon expérience. C'est ça qui m'a amené un petit peu à bouger un peu les limites, c'est-à-dire mon orientation sur la sexualité. Pourquoi la sexologie ? Parce que je pense que la sexualité, elle est importante à tel moment de la vie, à tel moment de son existence, je pense que on a besoin de parler de ça parce que ça constitue notre vie.
Est-ce qu'il y a des systèmes ou des normes entre guillemets que petit ou adolescent que tu avais vu dans ta famille qui t'ont fait souffrir ou qui t'ont amené des blessures?
Alors non, j'ai eu la chance d'avoir un environnement qui m'apporte cette espèce de réflexion. J'ai énormément réfléchi sur tout ce qui pouvait se dérouler dans ma vie. Et du coup, je vais pas dire que j'ai souffert des situations, mais j'ai plutôt appris à les décortiquer. Le mot déconstruction, j'aime pas vraiment parce que en réalité, c'est avec ça qu'on s'est construit. Le déconstruire, ça veut dire nous dénaturer. Donc, j'aime pas employer ce terme-là. J'aime bien décortiquer plutôt, décortiquer les choses et plutôt les regarder sous un angle à chaque fois.
C'est bien vu ça. Ouais, c'est chouette que. Ok, cool.
Et je pense que prendre une situation et la regarder sous un angle différent nous permet en fait de réfléchir, de dire bah tiens, ça c'est une pierre qui constitue mon temple, je la repose et puis je continue encore à observer ces autres pierres. Et du coup ces petites pierres là je les ai toutes observées, j'ai tenté d'avancer de ma réflexion et de faire en sorte de pouvoir pousser un peu plus mes normes, de les repousser au maximum et peut-être même de ne plus avoir de normes, de ne plus avoir de frontières. Et c'est un peu en rapport avec mes origines du coup, il n'y a pas de frontières.
Et depuis que tu as commencé ce métier du coup... Il en résulte quoi de tout ça, de toutes ces réflexions, toutes ces pierres que tu as trouvées?
Toutes ces pierres et toutes ces réflexions m'ont un peu façonné du coup sur ma pratique en cabinet, sur ma pratique, sur mon orientation. Du coup, je suis un sexologue qui aide les gens à réfléchir sur la sexualité. Et au lieu d'agir directement mécaniquement par exemple, j'agis directement sur quelque chose qu'on appelle le cerveau. Et qui est un petit peu lié un peu à notre sexe. Et
ah, mais c'est le premier organe sexuel, hein.
Je crois bien. Je crois bien.
Mais moi, j'en suis certaine.
J'en suis persuadée avec toi, je crois. Effectivement, le cerveau et notre sexe sont intimement liés. Et du coup, si on peut agir déjà sur le premier organe, je pense que ça pourrait aider le deuxième à mieux se sentir. Voilà.
Trop chouette. Merci beaucoup. J'ai quelques toutes petites dernières questions un peu fun, celles que je pose un peu à tout le monde.
Je t'écoute.
Est-ce que tu te souviens sur quelle chanson tu as embrassé la dernière fois ?
La dernière chanson sur laquelle j'ai embrassé la dernière fois ? Oui, c'était hier. Si je ne me trompe pas, c'était une chanson de FK Twig. Je crois que la chanson s'appelle Papy Bonne. je crois.
Ok, ouais. Je connais pas du tout, ça m'intrigue, ouais. Je vais l'écouter.
C'est particulier, mais je crois que juste avant c'était du Mozart, donc c'était une playlist un peu particulière. Mais ouais.
Super, et d'habitude, quel genre de musique aimes-tu faire l'amour ?
Alors, si je devais... Alors, je vais plutôt tourner la question autrement. Je pense que l'une des chansons sur laquelle on pourrait faire l'amour, je pense que ce serait Maggot Brain de Funkadelic.
Ah ouais, ok, je valide. Voilà. Trop chouette. Est-ce que tu as un souvenir, que ce soit lointain ou récent ou n'importe, d'avoir été en situation avec une personne où en fait tout se passait super bien et puis tout d'un coup ça se passe plus bien? Et comment vous avez fait pour pas que ça crée un malaise trop longtemps?
Essaye de m'emmener un peu plus en profondeur.
Par exemple, je sais pas, t'es au lit avec quelqu'un et en fait ça se passe pas très bien. Alors que tous les éléments étaient là à la base, mais en fait flop.
Un problème de communication peut-être.
Ah bah ça c'est sûr, mais après. La question, c'est un peu, est-ce que tu as souvenir d'avoir eu une histoire comme ça et comment vous aviez fait, enfin, et est-ce qu'il s'était rien passé ou vous êtes juste dit au revoir et puis on n'en parle plus? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui...
Alors, je pense pas avoir de situation...
Ça t'est jamais arrivé d'avoir un flop? Arrête.
Pas un flop, je pense que une incompréhension et je me souviens...
Oui, ça c'est sûr.
Je me souviens avoir posé le truc. J'étais complètement sorti de la situation et je me suis plutôt posé sur le canapé. J'ai dit peut-être que c'était pas la bonne action qu'on devait faire tout de suite maintenant. Peut-être qu'on devait peut-être un peu parler avant. Et je crois qu'on a parlé toute la nuit.
Chouette.
À la place d'avoir un coït sauvage et on a plutôt discuté.
Est-ce que c'était une belle conversation?
Ouais, l'une des plus belles conversations de ma vie, je pense.
Waouh, ouais. C'est beau, trop chouette. Premier organe sexuel, le cerveau.
Exactement. Je pense qu'on est tous un peu sapiosexuels, du coup. Je le pense.
Super. Vraiment. Bah, merci beaucoup, Brian. C'était très chouette.
C'était très agréable. Le plaisir est partagé.
Bah, trop bien. Je suis ravie que tu aies passé un bon moment.
Super.
Trop cool. Bah, les auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez passé un très, très bon moment aussi. Que c'était très doux à vos oreilles. Ça l'était aux miennes. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage grandement à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est méga important. C'est vraiment ce qui fait vivre mon podcast. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @colettesconfesse. Vous pouvez surtout, vous abonner à ma newsletter. Tous les liens sont dans la description. Sur ma newsletter, si vous abonnez, je vous offre un épisode gratuit et je vous prépare de nombreuses surprises par la suite. Et puis, après, pour me soutenir, ce qu'on peut toujours et encore faire, c'est, si ce n'est pas déjà fait, c'est voter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, laisser un petit commentaire. Et puis surtout, vous pouvez vous abonner aussi à mon Patreon, où il y a tous les épisodes exclusifs pour vous servir. Tous les épisodes olé olé, les histoires immersives, l'atelier d'écriture avec le Coco Club. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Viens des voir. Et à très bientôt. Merci.
Merci.
Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et 5 étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip. Devenir donateur, c'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord Le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com/Colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. À bientôt. Colette.